Et nous allons revenir à ce passage en Apocalypse, chapitre 22, les versets 6 à 9. Apocalypse, chapitre 22, les versets 6 à 9. Et donc l'apôtre Jean écrit ce que l'ange lui dit. Il écrit au verset 6, et il me dit, donc et l'ange me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Et jusque-là, la lecture de la parole. Et la dernière fois, donc, nous avons étudié ces versets et nous avons soulevé le premier volet du thème qui est abordé ici et nous avons vu que l'ange parle de la véracité de la parole, premier mot sur la feuille, la véracité de la parole de Dieu, ses paroles sont certaines et véritables et pas seulement l'Apocalypse mais toute la Bible est vraie. Toute la Bible est digne de confiance à cause de son auteur. C'est Dieu qui parle, à cause du moyen qu'il a utilisé, l'inspiration de l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Le messager qui a été souvent utilisé, comme c'est le cas ici, un ange. Et puis, bien entendu, le témoignage de l'apôtre Jean, un homme autorisé à rapporter ce qui allait devenir le fondement sur lequel l'Église est bâtie. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Mais l'ange dit aussi au verset 6 qu'il a été envoyé pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et si on pense que l'ange fait allusion au retour du Seigneur Jésus-Christ et aux événements qui sont associés, certaines personnes vont dire, ben, voilà une affirmation qui n'est pas digne de confiance, qui n'est pas véritable. Les critiques de la Bible vont dire, ben, c'est drôle. Jean vient d'écrire que ses paroles sont vraies et dignes de confiance et immédiatement après, il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Les critiques de la Bible vont dire qu'au verset 7, Jésus dit, et voici, je viens bientôt. Mais ils vont rajouter bientôt, mais attendez, ça fait presque 2000 ans. Ça fait presque 2000 ans, ça ne semble pas vrai. Il n'est pas venu. Comment prendre ces paroles sérieusement? Est-ce que ce n'est pas là une erreur, une contradiction avec ce qui précède, avec le fait que l'ange dit au verset 6 que ces paroles sont vraies, sont certaines et véritables? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Alors, il y a plusieurs manières de considérer la promesse que le Seigneur Jésus fait ici au verset 7. « Et voici, je viens bientôt. » La première interprétation dit que tout ce qui est annoncé, les événements futurs qui sont annoncés dans l'Apocalypse, arrivent bientôt dans le sens que ce sont les prochains événements, deuxième mot sur la feuille, les prochains événements sur le calendrier prophétique. C'est ce qui est sur le point d'arriver. C'est le prochain chapitre dans l'histoire. Il n'y a rien entre le moment présent et les événements décrits dans l'Apocalypse qui empêchent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Plus tôt dans l'histoire, il y avait certaines choses qui devaient arriver. La venue du Seigneur Jésus-Christ, sa mort expiatoire sur la croix, sa résurrection, son ascension, et puis la persécution de l'Évangile, la rébellion la persécution de l'Église, la rébellion du monde face à l'annonce de l'Évangile. Ça, c'est arrivé. Certaines choses existent encore. Mais ce qui doit arriver bientôt, c'est-à-dire la prochaine étape, c'est le retour de Christ. Et donc, nous devons vivre à la lumière de cette connaissance. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation dit que cette promesse de venir bientôt se réalise, en fait, dans l'aide que le Seigneur Jésus apporte aux églises auxquelles il envoie, il écrit cette lettre de l'Apocalypse. Des églises qui font face à la persécution. Jésus dit qu'il ne va pas les oublier, qu'il ne va pas les abandonner aux mains de César ou du tyran, mais qu'il va les visiter, troisième mot sur la feuille, qu'il va apporter son, qu'il va venir les aider. Et cette interprétation s'accorde avec la manière dont le Seigneur Jésus parle par la plume de l'apôtre Jean dans justement les lettres adressées aux sept églises dans les chapitres 2 et 3. Au chapitre 2, au verset 16, par exemple, en s'adressant à l'église de Pergame, il écrit ceci, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai, je combattrai les Nicolaïtes, les opposants, avec l'épée de ma bouche. » Et il ne parle pas ici de son retour à la fin de l'histoire, non, il parle du fait qu'il règne sur l'église et qu'il vient corriger son peuple qui est désobéissant. Au chapitre 3, verset 11, la lettre adressée à l'église de Philadelphie, il dit « Je viens bientôt ». Et le contexte indique que c'est pour délivrer son peuple à l'heure de la tentation. Le verset 10 nous dit cela. Et donc cela ne fait pas référence à son retour à la fin de l'histoire, mais à son intervention providentielle pour délivrer son peuple. Voilà deux interprétations. Mais malgré tout, malgré ces deux interprétations concernant cette promesse du Seigneur Jésus-Christ, la façon la plus naturelle de considérer cette promesse est de la voir qui fait référence à son retour pour juger le monde et pour inaugurer nouvelle Jérusalem, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Et bien sûr, cela pose toujours le problème que cela ne semble pas être bientôt. Mais quand on a des questions, et on l'a déjà souligné, quand on se trouve face à un verset qui nous pose problème, l'attitude à avoir, c'est d'aller ailleurs dans la Bible pour trouver des passages qui peuvent nous aider à comprendre. Et en faisant cela, nous venons sur un passage en 2 Pierre 3, versets 8 et 9, qui nous aide à comprendre comment voir les choses avec la perspective de Dieu. Quatrième mot sur la feuille. Comment Dieu voit le temps? 2 Pierre 3, versets 8 et 9. Pierre écrit ceci, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, mais un jour sont comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et nous devons donc anticiper le retour du Seigneur Jésus-Christ, un retour qui peut arriver à n'importe quel moment. Nous devons nous attendre à le voir arriver. Et en attendant ce jour, nous devons vivre comme ceux qui sont prêts pour le retour du Seigneur Jésus, désireux d'être trouvés fidèles lors de son retour. Et cela donc nous emmène au premier point ce matin. Comment garder cette parole? Comment garder la parole de Dieu? Et un commentateur compare la situation des croyants qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ avec celle des combattants de la résistance lors de la Deuxième Guerre mondiale. Durant ce temps d'occupation nazie en France, beaucoup de personnes avaient décidé de coopérer avec l'ennemi, mais certains se sont regroupés dans des bandes de combattants pour attaquer sans arrêt l'ennemi nazi. Ils ont saboté des lignes de chemin de fer. Et, dans la région, on peut voir l'histoire de cela avec ce musée à Sennecey-le-Grand, par exemple. Ils ont détruit des installations militaires, ils ont fourni des renseignements aux alliés qui se préparaient à attaquer. Et la résistance ne savait pas quand les troupes américaines, britanniques, canadiennes et tous les alliés, quand est-ce qu'ils allaient venir. Mais la résistance avait reçu une information codée qui allait justement leur permettre d'anticiper cet événement qu'ils attendaient avec impatience. Et le 1er juin 1944, Radio Londres, sur les ondes de la radio, la BBC, a émis un premier message codé. Ce vers de poème de Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne. Et la résistance savait qu'à ce moment-là, l'opération de délivrance allait arriver dans les jours qui suivent. Et de la même manière, le Seigneur Jésus a donné à son Église un message qu'il revient bientôt. Pourquoi? Pour encourager l'Église, cinquième mot sur la feuille, encourager l'Église qui est en guerre, qui est en guerre contre le mal, contre le péché, contre ce monde hostile. Qu'est-ce que nous devons faire en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ? Le verset 7 nous donne cette béatitude, une des six béatitudes de l'Apocalypse. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux si nous gardons les paroles de la prophétie de ce livre. Et garder les paroles de ce livre, cela veut dire croire dans cette parole. Cela veut dire accepter cette parole avec foi. Cela veut dire s'appuyer, sixième mot sur la feuille, s'appuyer sur cette parole en toutes choses, obéir à cette parole dans nos actions. Les combattants de la résistance n'ont jamais pensé qu'ils allaient à eux seuls être capables de battre les armées allemandes. Mais ils attendaient la délivrance qui allait arriver, qui leur était promise. Et en attendant cette délivrance, ils veillaient à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour défendre leur pays, pour ne pas faire de compromis avec l'envahisseur. Et de la même manière, le chrétien qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ va garder la parole de Dieu pour ne pas faire de compromis avec ce monde, pour ne pas subir les attaques de ce monde, mais pour défendre sa cause et la cause de l'Évangile. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Mais recevoir la parole et garder cette parole, cela veut dire que nous devons l'étudier de manière sérieuse, la mettre en pratique dans tout ce qu'elle dit. Le croyant ne croit pas seulement dans les idées générales de la Bible. Comme nous l'avons dit la dernière fois, et je le rappelle, Dieu a utilisé des mots par les prophètes, par les apôtres, pour aller justement dans les détails. C'est pour ça que nous prenons au sérieux tout ce que la parole de Dieu dit, le sens des mots eux-mêmes. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit en Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Nous avons parlé la dernière fois de l'inspiration de l'Écriture, mais nous appelons cela l'inspiration verbale plénière. Qu'est-ce que cela veut dire? Inspiration, je vous rappelle que Dieu a utilisé le Saint-Esprit pour que les prophètes et les apôtres écrivent sa parole. C'est une inspiration verbale. Dieu n'a pas seulement donné le sens général des grandes idées, mais il a donné les mots eux-mêmes. Encore une fois, d'où l'utilité de mémoriser des versets et d'utiliser la parole comme le Seigneur a utilisé dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure en Matthieu 4. Lors de sa tentation, il a cité la parole parce que c'est la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu. Et utiliser cette parole comme une ressource pour notre vie. C'est une inspiration verbale plénière. Il s'agit de tous les mots de la parole de Dieu dans leur langue originelle. Mais nous avons de bonnes traductions aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement les passages que l'on trouve les plus beaux, les plus merveilleux. Non, c'est toute la parole de Dieu. Même les passages les plus difficiles. C'est pour ça que nous nous efforçons de faire une étude suivie de tout un livre. On ne sait pas comment Dieu va utiliser certains passages qui nous paraissent obscurs, mais c'est la parole inspirée de Dieu. De Genèse 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse 22, verset 21. Ce sont toutes les paroles inspirées, septième mot sur la feuille, inspirées de Dieu. Et l'exemple de celui qui a considéré la parole de Dieu de cette manière, c'est celui que nous avons vu tout à l'heure. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en Matthieu chapitre 4, dans ce conflit spirituel avec Satan dans le désert. Il ne cesse d'utiliser la parole comme une épée. Il ne se contente pas de donner les grandes lignes, mais il cite la parole, il cite les versets, il utilise les mots inspirés de Dieu. Et toute la vie, tout son ministère, le Seigneur Jésus-Christ a obéi à cette parole. En Hébreux 10, verset 7, nous lisons ceci. Le Seigneur dit, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, nous devons garder les paroles de ce livre. Mais l'ange précise, il est question de garder les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 7. Et plus particulièrement donc de l'Apocalypse. Et cela nous souligne que l'histoire qui est révélée dans l'Apocalypse, l'histoire présente et l'histoire encore à venir, elle devient la vérité à la lumière de laquelle nous vivons notre vie. Nous vivons selon ce que Jean a décrit. Huitième mot sur la feuille. Jean nous a décrit ce qui se passe, ce qui va se passer. Et nous le croyons. Nous vivons dans un monde qui est opposé. Un monde qui est opposé à l'Évangile. Un monde qui persécute les croyants. Et qui s'oppose. Qui préfère suivre la prostituée Babylone. Ce monde qui attire par toutes ses convoitises. Et Jean nous a décrit cela. Et nous vivons à la lumière de cette révélation. Nous résistons le mal parce que nous savons que le mal va bientôt être jugé. Le Seigneur Jésus-Christ ne permettra pas que son peuple soit défait. Bien sûr, le monde autour de nous va dire, mais vous ne lisez pas les journaux. Les chrétiens ne sont pas dans leurs meilleurs jours. Vous perdez la bataille. Vous devriez abandonner. Et le chrétien va répondre, au contraire, nous lisons les journaux, mais la Bible a bien plus d'importance que les journaux. Et ce qu'elle dit compte beaucoup plus que ce que disent nos journaux quotidiens. L'Apocalypse nous dit qu'effectivement, tout semble aller mal. Tout semble aller mal aujourd'hui. Mais nous savons que nous avons un Sauveur, que nous avons un Seigneur qui est souverain. Qui est absolument souverain sur toutes choses et qui dirige toutes choses, qui nous aime, qui aime son peuple, qui garde son peuple, et nous allons continuer à le servir. Pourquoi? Parce que la prophétie de ce livre nous certifie qu'un jour, il revient. Un jour, il revient pour juger ce monde et pour prendre avec lui son peuple, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui sont réconciliés à lui par la foi. Nous gardons les paroles de la prophétie de ce livre en agissant de la même manière que les combattants de la résistance. Ils étaient convaincus que cette occupation terrible de la France n'allait pas et ne pouvait pas durer pour toujours. Et qu'un jour leurs ennemis allaient être détruits, que la libération allait arriver. Et ces combattants de la résistance comptaient dessus et se sont battus sur cette base. Nous avons une base qui est meilleure. La révélation même de Dieu. Gardons donc les paroles de la prophétie de ce livre. Le verset 7 nous dit « Heureux », neuvième mot sur la feuille. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il recevra toutes les promesses de l'alliance de Dieu. Il héritera tout ce qui a été montré dans ses visions merveilleuses de la Nouvelle Jérusalem, les chapitres 21 et 22. Ce n'est pas dans la lecture, ce n'est pas dans l'imagination ou dans la parole, mais c'est en gardant les paroles de la prophétie de ce livre que l'homme sera heureux et recevra les bénédictions promises. Cela nous amène au point suivant. Et l'ange nous montre plutôt ce qui arrivera au croyant fidèle qui garde sa parole. Qu'est-ce qui arrive dans notre vie si nous considérons la Bible comme étant vraie et que nous la gardions comme l'ange nous exhorte à le faire? Jean nous le montre par sa réaction. Il est tellement submergé, par un désir d'adorer Dieu, qu'il se met à genoux devant l'ange. Verset 8, « Quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Bien sûr, Jean commet une erreur quand il adore l'ange. Mais ce qui se dégage avant tout dans ce passage, c'est cette attitude d'adoration. Dixième mot sur la feuille. Lorsque on garde les paroles de la prophétie, des visions de ce livre, cela ne peut que nous pousser à adorer, à avoir cette attitude d'adoration. Alors, bien sûr, les experts ont essayé de trouver toutes sortes d'explications quant à l'adoration qu'apporte Jean ici à l'ange et qu'il a déjà fait au chapitre 19 et verset 10. Certains disent les anges étaient si glorieux que Jean s'est senti le devoir de l'adorer. Bon, c'est pas terrible comme explication. Une autre explication dit qu'au verset 7, on note que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et il parle à travers l'ange. Et Jean est dans la confusion. Il pense qu'il adore le Seigneur alors qu'il adore l'ange. C'est possible. Mais la meilleure façon de voir, c'est que Jean est tellement submergé spirituellement par ce qu'il a vu tout au long de ses visions de l'Apocalypse, qu'il se laisse aller dans cette attitude d'adoration et de louange. Et en réponse à l'action de Jean, l'ange nous donne une instruction sur le sujet important qui est celui de l'adoration. On ne doit pas oublier que les anges sont des experts dans l'adoration. Quand un ange nous enseigne quelque chose au sujet de l'adoration, nous devons prêter une grande attention parce que c'est un expert qui parle. Et l'ange réagit à l'action de Jean, verset 9, avec un cri d'horreur. « Garde-toi de le faire !» Une autre version dit « Non !» me dit-il, ne fais pas ça. Et en grec, en fait, la phrase est très courte, c'est « Non, pas ça !» L'ange a cette réaction d'horreur quand il voit que Jean est en train de plier le genou et de s'agenouiller devant lui, quand il s'agit de recevoir, de garder la parole de Dieu, l'élément le plus important, c'est de donner gloire à Dieu seul. 11e mot sur la feuille. Et l'ange réagit avec une passion brûlante pour la gloire de Dieu, la gloire exclusive de Dieu. Et quand il voit Jean réagir de cette manière, il dit « Non, pas ça, Jean !» Jean voit l'idolâtrie se dérouler, l'ange voit, pardon, l'idolâtrie se dérouler devant ses yeux, et il est révolté. Quelqu'un d'autre que Dieu est adoré. On a déjà vu cela dans d'autres passages de la Bible. Je ne citerai que celui de Actes 17, où Paul se promène à Athènes. Vous vous rappelez peut-être de l'occasion. Athènes, cette grande ville, ce grand centre intellectuel, cette ville avec une architecture qui est riche. Et il se dirige vers l'Aréopage pour annoncer l'Évangile. Et en Actes 17, verset 16, nous lisons ceci, « Comme Paul attendait les autres à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Paul était tellement alarmé en voyant les idoles partout dans cette ville qu'il en était retourné au-dedans de lui. Et le terme, c'est pratiquement celui qui décrit quelqu'un qui est sur le point d'avoir une crise cardiaque. C'est vraiment un retournement. Et cela, parce que Paul est tellement animé de cette passion pour la gloire de Dieu. Et il voit que cette gloire qui est normalement est réservée à Dieu, elle est donnée à des idoles. Paul n'est pas un conservateur vieux jeu qui ne sait pas adapter son ministère. Non, Paul montre à plusieurs reprises qu'il sait au contraire adapter son ministère, mais il n'adapte pas son message. Son message reste le même. Paul est frappé par la parole de Dieu, et cette parole lui a donné une passion, 12e mot sur la feuille, une passion débordante pour la gloire de Dieu, et une révulsion au fait que la gloire qui est réservée à Dieu a été donnée à un autre. Et on voit ça, bien sûr, d'autres passages de la Bible, et on voit aussi cela dans bien des biographies chrétiennes. Quand on voit la réaction de l'ange et quand on voit la réaction de Paul à Athènes, on doit se poser la question pour nous-mêmes. Est-ce que nous connaissons dans notre expérience quelque chose de cette passion pour la gloire et pour l'honneur de Dieu ? Gardez les paroles de la prophétie de l'Apocalypse, ce que Jean nous a montré. Cela nous appelle à marcher au milieu de ce monde, non pas en admirant son idolâtrie, non pas en étant triste parce qu'on ne peut pas participer à la rébellion de ce monde. Paul ne pensait pas, en voyant les choses à Athènes, que cela faisait de Jérusalem une ville dépassée. Non. Mais c'est vivre dans ce monde en étant irrité au-dedans de nous-mêmes par l'idolâtrie de ce monde. Et le message de l'Apocalypse nous aura imbibé si nous traversons ce monde avec un cœur rempli de chagrin et de peine, en voyant des hommes, des femmes, des personnes que nous connaissons, créées à l'image de Dieu pour le servir, pour le glorifier, et qui se sont donnés à l'esclavage de l'idolâtrie, qui se sont donnés à un mensonge, et qui servent quelque chose d'autre que le Dieu véritable. Et nous devons répondre avec la même résolution que les combattants de la résistance. Nous allons rendre un témoignage par nos vies à la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui se révèle par le sacrifice et par le salut en Jésus-Christ, par la foi, à la sainteté de Dieu, qui va et qui doit juger ce monde, et à l'opportunité donnée aux pécheurs de venir à Christ maintenant dans la repentance et la foi. Nous voulons vivre de cette manière. Au lieu de craindre ce que le monde pourrait nous enlever, nous devrions être peinés en voyant la gloire que ce monde ne rend pas à Dieu. Qu'est-ce que l'on peut tirer comme conclusion? La conclusion, nous allons la voir dans la réponse de l'ange, qui n'est pas seulement la réponse négative, ne fais pas ça, non, pas ça. Mais il donne une réponse positive et il le fait en trois points. Tout d'abord, il nous dit que l'adoration de Dieu est un ordre. 13e mot sur la feuille. C'est un devoir pour non seulement le peuple de Dieu, mais pour toute créature. Fin du verset 9, il dit « Adore Dieu ». C'est un impératif, c'est un ordre, c'est un devoir. On ne doit pas seulement adorer Dieu quand on en a envie ou quand on pense que cela peut nous apporter quelque chose. Non, nous sommes appelés à adorer Dieu à tout le temps, à chaque instant. En particulier quand nous nous réunissons comme ce matin pour ce temps d'adoration. La question en venant à nos rencontres, c'est pas qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de ce temps d'adoration, parce que celui qui adore Dieu véritablement va retirer beaucoup de toute manière. Mais la question est, qu'est-ce que je suis venu faire? Nous sommes venus pour adorer Dieu. Et Dieu nous ordonne de le faire. Nous sommes les créatures. Nous sommes ses créatures. Et nous nous plaçons dans sa présence. C'est un ordre, c'est un devoir de l'adorer. C'est une offense si nous ne le faisons pas. La deuxième chose, dans la deuxième partie de la réponse de l'ange, c'est que le verbe adorer, au verset 9, n'a qu'un seul objet direct. L'ange dit « adore Dieu ». Il y a un objet à ce verbe. 14e mot sur la feuille. Il est important d'avoir le bon objet. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'ils veulent passer un moment d'adoration ou de louange. Et on entend parfois la phrase « faisons le vide dans nos têtes et adorons ». Et très souvent, cela veut dire que l'assistance va chanter des refrains qui vont se répéter plusieurs fois. Mais c'est impossible d'adorer. On doit adorer quelque chose ou quelqu'un. On ne peut pas juste adorer. On doit adorer quelque chose ou quelqu'un. Et l'ange insiste que Dieu est le seul véritable objet de l'adoration. 15e mot sur la feuille. Il est le seul véritable objet de l'adoration. Il est le seul que l'on doit adorer. Comment venir pour adorer Dieu? Par une adoration qui est selon sa parole, selon ce qu'il a dit, selon les principes, selon les exemples que nous avons dans la parole. Une adoration, un moment de louange qui est animé par sa parole. C'est pour ça que la parole de Dieu prend une telle importance dans nos réunions. Et c'est de cette manière que nous accomplissons ce que Hébreux 12, verset 28 nous dit. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Avec piété et avec crainte. Et tout cela, c'est selon sa parole. Et le troisième élément dans la réponse de l'ange, c'est que l'ange nous dit que c'est dans l'adoration véritable de Dieu que nous réalisons pleinement notre identité, 16e mot sur la feuille, et le privilège que nous avons d'être le peuple de Dieu, d'être le peuple du Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, l'ange dit à Jean, « Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » C'est une grande dignité que l'ange attribue à Jean. Si Jean adore Dieu comme il devrait le faire, comme un apôtre, il est un frère des prophètes de l'Ancien Testament. Mais il est aussi un compagnon de service des anges glorieux qui sont au ciel, qui ne sont pas déçus. Mais l'ange dit que cela est non seulement vrai de Jean, mais il est aussi vrai de tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Ils sont les compagnons de service des anges glorieux, des anges glorieux au service de Dieu. Voilà la véritable dignité, 17e mot sur la feuille, de chaque croyant. C'est dans l'adoration de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ et selon sa parole que nous sommes élevés comme les compagnons de service des anges. Nous avons été faits un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, par le Seigneur Jésus-Christ. Et en gardant les paroles de la prophétie de ce livre, nous sommes les compagnons de service des anges. Est-ce que nous avons ressenti quelque chose de la passion pour la gloire de Dieu en méditant sur ce livre de l'Apocalypse? Parce que c'est en fait notre véritable appel. Le but de l'Apocalypse, c'est que même au milieu de ce monde qui est hostile et ce monde dans lequel nous vivons, qui est contre Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu, nous soyons préoccupés, nous, pour la gloire de Dieu. Que nous soyons préoccupés pour la personne, pour l'œuvre de Dieu et pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, que nous vivions pour lui, que nous nous appuyions sur la parole, sur ses promesses. Que nous soyons ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, même ici-bas, même dans ce monde, en attendant ce jour glorieux où le Seigneur Jésus-Christ revient chercher son peuple pour nous emmener avec lui dans la gloire. Que Dieu nous accorde donc sa grâce pour que nous répondions à sa parole dans la foi, dans la confiance, et que nous gardions les paroles de la prophétie de ce livre. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.